Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, le devoir de mémoire pour l'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône rassemblé place des Arts jeudi dernier, commémorant le massacre de centaines de travailleurs algériens en 1961 à Paris, un 17 octobre. Un pan de l'histoire que nous rappelle Michel Lebaille, ex-responsable politique PCF. Suivi du souhait pour Christian Riton, secrétaire général de l'Union locale CGT Beaujolais, d'une reconnaissance de l'État de ses actes malheureux d'hier. Puis, la police scientifique s'invitait au cycle de conférences débat à l'initiative du Café des Sciences. Nous sommes en compagnie de Christophe Stécoli, ingénieur en police scientifique du Centre national de la police technique et scientifique, responsable de la filière audio à Écully. Et en conclusion, inauguration le 19 octobre de la nouvelle exposition Musée Paul Digny à Villefranche, Beaujolais art, hommes et territoires de la Révolution à nos jours, dans le cadre de la récente labellisation Pays d'art et d'histoire du Beaujolais. Nous sommes accompagnés de Sylvie Carlier, conservateur en chef du musée. Calade, le journal. Dans une tribune au Monde, à l'initiative de Roberto Saviano et du quotidien italien La Repubblica, un collectif d'écrivains en appelle à l'Europe afin de ne pas abandonner les Kurdes à leur sort. Il existe un gros mot qui commence par un G et que l'on n'a pas le droit de prononcer en ces heures en Turquie. Il s'agit du mot « guerre ». Au mépris de toute vérité, M. Erdogan, le président turc, et ceux qui le soutiennent attaquent des civils kurdes et qualifient cette invasion militaire d'opération. Opération source de paix, en fait. En Turquie, parler de guerre revient à se désigner comme traître. Les quelques voix libres qui s'élèvent dans le pays doivent s'attendre à des représailles atroces. Prison, diffamation, mise au ban de la société. La dissidence n'est guère permise. Le carnage des Kurdes, la négociation de leur indépendance, de leurs droits, de leurs rêves, sont selon Erdogan une nécessité vitale pour le peuple turc. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les Turcs à leur sort, parce que des guerres sont menées avec des armes que nous fabriquons et que nous vendons. La décision des ministres européens d'interdire la vente d'armes à la Turquie était une mesure nécessaire, quoique tardive. Elle nous concerne aussi parce que les Kurdes étaient le seul groupe capable de contenir la pression de Daesh, l'organisation État islamique. Et elle nous concerne enfin tous, car la Turquie reçoit de l'argent de l'Europe pour retenir sur son territoire les migrants syriens. Tout cela nous concerne parce que l'Europe que certains voudraient voir éclater doit maintenant montrer qu'elle existe en tant qu'entité politique, territoriale, économique et surtout culturelle. Elle doit montrer à tous que chez elle, la démocratie existe et que même si elle est menacée, elle résiste. Le devoir de mémoire pour l'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône rassemblé place des Arts jeudi dernier en matinée, commémorant des centaines de travailleurs algériens en 1961, un 17 octobre, au cours d'une manifestation pacifique à l'appel du FLN dans les rues de Paris, alors que la guerre d'Algérie touchait à sa fin. Un pan de l'histoire que nous rappelle Michel Lebaille, ex-responsable politique PCF.
Oui, c'est un pan d'histoire important, c'est un moment clé de la fin de la guerre d'Algérie. C'est le moment où le général de Gaulle a été contraint de négocier après 3 ans de tergiversation avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, le Front de Libération Nationale, le FLN, qui est implanté en France, hein, et le FLN organise une manifestation pacifique pour faire voir au gouvernement, mais aussi au peuple français, que les Algériens soutiennent ce gouvernement provisoire de la République algérienne au moment où tout un tas de gens, et en particulier Stéphane, contestent la représentativité de ce gouvernement. Et cet épisode-là, malheureusement, va être transformé du fait de la répression organisée principalement, mais avec l'accord du gouvernement, par le préfet Papon, qui s'est déjà illustré pendant la Deuxième Guerre mondiale comme un des responsables du sud-ouest, je crois, de Toulouse, où il avait contribué à l'arrestation et à la déportation des gens d'origine juive. Donc Papon va organiser un véritable massacre de gens qui pacifiquement défilaient, le FLN avait veillé à ce que personne n'ait d'armes sur soi et tout. Ça a été un massacre dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas le nombre de victimes. Ils ont reconnu, mais ça paraît aberrant, 2 morts. En réalité, il y a eu des dizaines d'Algériens après avoir été matraqués, voire dans les commissariats et tout, jetés dans la Seine.
Le souhait pour Christian Riton, secrétaire général de l'Union locale CGT Beaujolais, d'une reconnaissance de l'État de ses actes malheureux d'hier, confie-t-il à l'occasion du rassemblement.
Du silence, il faut faire table rase. Et donc, c'est de se rappeler un moment grave de notre histoire et puis l'assumer, quoi, le regarder en face, en lien avec les préoccupations syndicales, parce que ici, je suis là en tant que représentant d'une organisation syndicale, c'est avant tout des travailleurs qui travaillaient pour développer notre pays, qui ont été massacrés. Hein. Et c'est comme ça que nous, on le considère au niveau du syndicat, hein, CGT. En faisant des devoirs de mémoire comme ça et en reconnaissant ce qui serait une très bonne chose au niveau de l'État qui a eu un massacre et que l'État doit prendre toute sa responsabilité là-dessus, je pense que ça faciliterait les échanges avec ce pays-là et avec les travailleurs de ce pays.
Un pan de l'histoire que souhaitait nous rappeler l'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône, place des Arts jeudi dernier, commémorant le massacre de centaines de travailleurs algériens en 1961 à Paris, un 17 octobre, manifestation pacifique à l'appel du FLN, alors que la guerre d'Algérie touchait à sa fin. La police scientifique s'invitait au cycle de conférences débats à l'initiative du Café des Sciences au cinéma Les 400 Coups, mercredi dernier, en soirée. Nous avons pu alors dialoguer avec Christophe Stécoli. Il est ingénieur en police scientifique du Centre National de la Police Technique et Scientifique, responsable de la filière audio à Écully.
La police scientifique a plutôt le vent en poupe, grâce effectivement aux séries américaines. Alors, un faux ou un tox ?
Alors, les deux. Je ne les regarde pas beaucoup, je ne suis pas très au courant de tout ça. Il faut prévenir tout le monde qu'on n'est pas des enquêteurs. Donc, on est des scientifiques, des techniciens, des gens qui appliquent des méthodologies, des protocoles, qui ont parfois des connaissances plus près de la recherche et qui font une investigation technique et pas du tout une enquête au sens policier du terme. Dans les séries américaines, la limite entre les deux n'est pas aussi nette. Alors, les fondateurs sont français. Bertillon à la fin du 19e siècle. Et puis, on connaît le Lyonnais Edmond Locard qui a fait le premier laboratoire scientifique en France. À cette époque, non, les États-Unis, ça se passait entre la France, l'Angleterre essentiellement, ce genre de choses-là. On est au tout début du 20e siècle. Alors, évidemment, depuis... les années, on va dire, 60, 70 et puis 80, les États-Unis ont un peu pris de l'avance technologique sur nous. Mais je pense qu'actuellement, l'Europe, disons, dans son ensemble, est à la hauteur.
Alors, on va parler évidemment aujourd'hui plus particulièrement de l'évolution, effectivement, de cette discipline qui est très à la pointe.
Il y a du nouveau chez les matières anciennes. À partir de l'ADN, on ne fait plus seulement de la reconnaissance de personnes, on commence à faire du profilage, c'est-à-dire à essayer de décrire des éléments physiques des personnes à partir d'un ADN. Alors, ça se fait avec beaucoup de modestie. Hein,
il faut, profiler.
Voilà. Il faut prendre ça, faut savoir qu'on reste modeste avec sa matière, mais voilà. Sur les empreintes papillaires, on commence à réfléchir à avoir un petit peu moins que les 12 points, hein, en utilisant d'autres points qui sont plus significatifs, enfin à pondérer un peu les choses. L'autre gros élément, ça se développe, c'est les traces technologiques qui sont une matière pour le coup assez récente et qui sont en pleine expansion.
Donc quel est votre job, j'allais dire ?
On m'apporte des éléments de peut-être preuve qui ont été alors collectés sur le terrain. Bon, en audio, c'est souvent de l'enregistrement par ligne téléphonique ou bien des contenus de dictaphone, téléphone portable, des choses comme ça.
Et on va craquer les portables, c'est ça ?
Alors, craquer des portables, c'est pas mon métier. J'ai des collègues qui sont un petit peu plus là-dessus. C'est pareil, avec modestie. Il y en a qui résistent. L'idée, c'est que à partir de l'enregistrement, on va essayer de découvrir des sons qu'on n'entend pas bien. On va essayer de faire parler un contenu qui n'est pas forcément tout de suite accessible.
Est-ce que effectivement cette science apporte énormément maintenant aujourd'hui, c'est avéré, et est-ce qu'on élucide effectivement grâce à la science ?
Oui, l'apport est massif, d'autant que avec les réformes de la garde à vue, la police a décidé de s'engager dans une culture de la preuve matérielle plutôt qu'une culture de l'aveu. Et du coup, dans ce cadre-là, la police scientifique a pris une place assez prépondérante. Je pense que maintenant, il n'y a plus beaucoup de grandes enquêtes qui n'aient pas recours à des écoutes téléphoniques qui ont besoin d'être traitées, à des vidéos, surtout beaucoup de vidéos qui ont besoin d'être analysées. Et puis, tout le champ des empreintes qui identifient les personnes, enfin, c'est devenu fondamental, oui. La police, en général, c'est une discipline qui évolue, voilà. Là, on accompagne cette évolution-là. C'est un choix stratégique.
La loi aussi, la législation a évolué face effectivement à l'entrée en quelque sorte dans la vie des citoyens finalement, parce que tout le monde n'a pas envie de donner son ADN ou ce genre.
La législation prend en compte les nouveautés de PTS doucement. On a à la fois des choses qui sont assez anciennes et puis d'autres qui sont un petit peu plus modernes. Sur la valeur des preuves numériques, par exemple, autorisation de prélever des preuves numériques plutôt que de prélever un objet. Et comme vous évoquez, l'obligation de donner son ADN et de donner ses empreintes digitales, on va dire, papillaires. C'est pareil, elle fait plus un accompagnement de l'évolution des techniques qu'une véritable révolution. Elle encadre aussi l'utilisation des grands fichiers nationaux, ça c'est important pour la liberté du citoyen, enfin le respect des libertés individuelles, la loi encadre l'utilisation des grands fichiers.
Oui, c'était aussi dans ce sens-là ma question. On a vu effectivement des personnes en manifestation aujourd'hui qui se sont vues effectivement, où ils sont condamnés. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu, enfin, je schématise, mais c'est un petit peu les choses qu'on vit aujourd'hui.
Voilà, oui, bon, ben, alors la loi donne obligation de donner son ADN. Ça, c'est, on ne peut pas revenir là-dessus. Ceci dit, ça fait pas mal. Moi, je l'ai fait, j'ai donné mes empreintes, personne ne m'a mordu et je suis pas passé aux assises pour autant, enfin en tout cas pas en tant qu'accusé.
Loin des clichés des séries américaines, Christophe Stécoli, ingénieur en police scientifique du Centre national de la police technique et scientifique, responsable de la filière audio à Écully, partageait avec nous l'activité d'un métier en plein développement. Et pour conclure cette édition, inauguration le 19 octobre de la nouvelle exposition au Musée Paul Digny à Villefranche, Beaujolais, art, hommes et territoire de la Révolution à nos jours, dans le cadre de la récente labellisation Pays d'art et d'histoire du Beaujolais, en partenariat avec les acteurs des archives et du patrimoine, comme nous le souligne Sylvie Carlier, conservateur en chef du musée.
Alors, Beaujolais, art, homme et territoire, qui vient en fait répondre à une sollicitation que la ville nous a faite de réfléchir sur le fait que l'année 2019 était le moment du label Ville Pays d'art et d'histoire, qui regroupe plus de 50 communes dans le Beaujolais, et de trouver en effet un lien avec le service d'architecture du patrimoine et le musée Paul Digny sur un thème d'exposition. Donc nous sommes partis sur le sujet du portrait, mais portrait au sens large, à la fois le portrait représente d'hommes illustres, de personnalités illustres qu'ont été le couple Manon et Jean-Marie Roland pour la Révolution française, ou alors Claude Bernard pour le scientifique qu'il était au XIXe siècle. Mais aussi les habitants quotidiens que ce sont au XIXe siècle, vus par le fonds Barthier-Geoffray, conservé par la Maison du patrimoine, et puis aussi les grands portraits d'Hubert Munier. Notre propos était aussi d'aller plus loin sur les personnalités artistiques qui ont peint aussi le Beaujolais, donc aussi le paysage, mais à travers des artistes qui sont attachés à cette terre beaujolaise, que ce soit à la fois Théodore Lévigne, mais aussi Adolphe Valette ou Georges Dufresnoy, ou des artistes comme le trio Valadon, Utrillo Utter, et des gens comme évidemment Fusaro ou Chartres. Et dans ce parcours, on a voulu aussi mettre en avant des personnalités comme Marcel Michaud, qui est un grand marchand d'art, qui a défendu vraiment une avant-garde plutôt surréaliste et inspirée de Picasso, mais aussi des personnalités comme Maurice Baquet, vu par deux photographes en 1957, Robert Douaneau, que l'on connaît pour ses grandes photos, notamment de l'Hôtel de Ville, mais qui a photographié et saisi de manière humoristique Maurice Baquet remontant la rue Nationale, ou alors Pierre Aymin, qui était un des grands photographes du Progrès, et qui lui va mettre en scène dans un kiosque à musique Maurice Baquet avec un ballet comme un instrument de musique.
Beaujolais, art, homme et territoire de la Révolution à nos jours, nouvelle exposition du 19 octobre au 16 février prochain dans le cadre de la labellisation récente Pays d'art et d'histoire du Beaujolais. Une exposition en collaboration avec le service de l'animation de l'architecture et du patrimoine sur le thème du portrait. Un dialogue des personnalités du Beaujolais, artistes, photographes, collectionneurs, scientifiques ou encore industriels ou politiques qui ont façonné ce territoire. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Souriez, c'est vendredi.